Bonjour. Donc, on va accueillir David Le Breton pour son livre « Disparaître de soi ». Je suis donc, moi, le modérateur. On m'a demandé de me présenter. Je suis donc Philippe Lacadet. Il se trouve que je suis psychiatre et psychanalyste. Nul n'est parfait. Et je dois donc... présenter David Breton et le livre. Mais d'abord, je voudrais vous dire comment j'ai rencontré David Le Breton. Il se trouve que, comme je travaille beaucoup avec des adolescents, et que David Le Breton, qui est professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, membre de l'Institut universitaire de France et de l'Institut des études avancées de l'Université de Strasbourg, David Le Breton a beaucoup écrit sur l'adolescence et dans un livre que j'avais fait qui s'appelle « L'éveil et l'exil », j'avais fait référence à ses travaux, notamment « Passion du risque » et « Conduite, conduite à risque ». Par gentillesse, pour le remercier, je lui avais adressé mon livre. Il m'a remercié, mais il a... introduit une petite note très sympathique en disant que par moment, sûrement, emporté par mon élan, j'avais tenté peut-être de le faire disparaître dans le sens où j'avais pas toujours mis des guillemets pour dire que certaines phrases étaient de lui. Je crois. C'était peut-être aussi par une communauté... d'esprit ou de travail, ce qui fait qu'à un moment donné, quand vous êtes passionné par certains travaux, au bout d'un moment, même si je le référençais, je le citais beaucoup, une ou deux phrases peut-être. Bon. Donc il a été très élégant, il m'a répondu, comme vous le verrez, avec une extrême délicatesse et gentillesse, mais il a fait plus. Il m'a proposé après de faire un texte sur Rimbaud dans le dictionnaire de la jeunesse, je crois.
Et de l'adolescence.
Et de l'adolescence, qui est un dictionnaire remarquable si vous voulez arriver à comprendre quelque chose sur ces adolescents si difficiles. Et après, donc, je l'ai invité à un colloque interdisciplinaire où il est venu et où on a beaucoup travaillé sur, sur ses livres, notamment sur la question par rapport à... ce qui caractérise beaucoup certains adolescents de nos jours, c'est-à-dire les scarifications, les tatouages, enfin sur la question de la peau et du corps. Il se trouve que quand même aussi, mon livre ayant été traduit au Brésil, à Belo Horizonte, où il a été invité, j'ai eu le plaisir d'apprendre que si on l'avait invité, c'est parce qu'on avait eu accès à mon livre, à ses travaux. Ah ben, je ne sais pas si tu as dit ça. Voilà, donc c'était tout à fait gentil. Donc, l'autre point de rencontre que j'ai avec David Le Breton, c'est la rencontre avec un auteur dont il parle dans son livre, qui est un auteur peut-être pas très connu, mais qui mérite d'être connu. C'est un poète suisse-allemand, Robert Walser. Et il se trouve... que je suis cité dans son livre à propos de mon texte de Robert Walser. Donc, je remercie la librairie Mola, parce que je supposais que c'était pour ça qu'elle m'avait invité à présenter David Le Breton. Et puis, il se trouve que aussi une patiente... Vous savez, maintenant, il suffit que vous soyez un peu déprimé pour que de suite, vous deveniez bipolaire. D'après les psychiatres, version DSM. Donc, bipolaire type 1, bipolaire type 2. Et puis, cette dame, elle commence à se présenter comme ça, comme bipolaire, comme si ça suffisait pour expliquer sa vie. Et puis, je dis, oui, enfin, c'est plutôt que vous avez une dépression. Et puis, cette dame, il y a à peu près 10 jours, me dit, vous savez, je suis en train de lire un livre de David Le Breton. Depuis qu'elle le lit, d'ailleurs, elle va beaucoup mieux. Et elle me dit, vous savez, il vous cite. Donc, quand Céline, présente ici, m'a proposé de venir modérer ce repas, j'allais dire, ce débat, on va manger David, Quand on m'a proposé d'animer ce débat, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, ça s'impose. Et donc, je suis très content de venir modérer ce débat. Alors, les livres de David Le Breton, je ne sais pas si vous les avez lus, mais c'est toujours un vrai plaisir. D'abord parce qu'il écrit très bien. Aussi parce que c'est toujours très référencé, notamment à partir de certains auteurs de la littérature que moi, par exemple, il m'a fait connaître. Là, comme effectivement j'ai des difficultés à me déplacer parce que, atteint par la blancheur moi-même, je suis tombé sur la neige et je me suis cassé la hanche. Donc, je n'ai pas pu me les procurer, mais là, il m'a donné le goût d'aller lire ces auteurs. Alors, vous verrez, dans ce livre, il introduit quelque chose qu'il avait déjà introduit, la question, à un moment donné, il parlait de la blancheur et du vertige, que j'avais d'ailleurs relevé dans mon livre « L'éveil et l'exil », mais là, maintenant, c'est surtout essentiellement sur la blancheur, qui est un... Il va le dire très bien. D'ailleurs, je partirai de cette phrase pour introduire et lui poser quelques questions. Page 17, vous verrez que si vous lisez ce livre, donc, au fil du livre, il va appeler la blancheur cet état d'absence à soi, plus ou moins prononcé, le fait de prendre congé de soi, sous une forme ou sous une autre, à cause de la difficulté ou de la pénibilité d'être soi. Alors, une des premières questions que je lui poserai, c'est qu'est-ce que c'est qu'au fond, pour lui, être soi ? Dans tous les cas, dit-il, au fond, la volonté est de relâcher la pression. L'existence ne se donne pas toujours dans l'évidence, elle est souvent en effet une fatigue, un porte-à-faux. Alors, pour lui, la blancheur répond au sentiment de saturation, de trop-plein, éprouvé par l'individu. C'est la recherche d'une relation amortie aux autres. Elle est une résistance aux impératifs, et Dieu sait si on en a en ce moment des impératifs. Mais là aussi, c'est les impératifs de se construire une identité dans le contexte de l'individualisme démocratique de nos sociétés. Alors, il relie à partir de cette notion de blancheur certains phénomènes ou événements de la vie. Il fait état que quand même ça concerne quelque chose qui met en évidence non pas seulement le corps, mais quelque chose qui fait que, c'est aussi une des questions que je lui poserai, quelque chose de l'être tout d'un coup se met en suspension, en suspens. Et ça peut être aussi l'individu tout entier. Ça peut être, au fond, quelqu'un pris par des pensées ou des investissements particuliers et qui décide, comme ça, de se désinvestir du monde et, au fond, de rentrer dans une zone plutôt blanche, un peu comme l'équivalent d'une page blanche sur laquelle, tout d'un coup, rien n'est écrit. D'ailleurs, ça peut arriver comme ça, très souvent, comme il se trouve que je suis psy, très souvent les gens parlent et puis tout d'un coup ils disent « j'ai un blanc ». Et très souvent ce blanc, c'est parce que là, ils ne sont pas dans la situation de trouver la solution, de bien dire quelque chose de leur être. Alors il y a des gens qui sont très pris par ça. Et la question aussi que je lui poserai, c'est à un moment donné, il fait référence... à la blancheur qui serait un laisser-tomber qui, je lui demanderai de préciser au fond ce qu'il appelle ce laisser-tomber, parce que pour nous, psychanalyste, ça fait référence à quelque chose qu'avait décrit Freud à propos d'un cas, Schreber, c'est le laisser-tomber du sujet qu'on peut trouver aussi chez certaines personnes qui décident, par exemple, et vous verrez dans le livre quand il reprend la clinique des adolescents, comment pour certains ils sont pris par se laisser tomber. Alors, est-ce que c'est un laisser tomber du corps ? Est-ce que c'est un laisser tomber de leur être ? Et il précise aussi qu'il peut y avoir pour certains une passion de l'absence. Donc, comme je suppose que vous êtes venu surtout écouter David Le Breton présenter son livre, avant de lui passer la parole, je terminerai sur une rencontre au fond commune qu'on a fait, parce que c'est vraiment l'écrivain qui illustre ça, c'est Robert Walser. Robert Walser qui pouvait aller jusqu'à, dans l'Institut Benjaminta, par exemple, d'ailleurs tu le cites David, jusqu'à vouloir être, tu dis un zéro tourant, mais Robert Walser est assez précis, il dit un ravissant zéro tourant, comme s'il mettait, alors c'est peut-être ça la passion, comme s'il mettait une certaine énergie à s'identifier à un zéro tourant. Apôtre de la blancheur, il était passionné par la neige, c'est d'ailleurs un point commun que j'ai avec lui, jusqu'à moi-même tomber dans la neige, mais lui, il est allé jusqu'à mourir le 25 janvier, jusqu'à s'identifier, enfin, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est-à-dire au fond, rendre son corps lui-même à la blancheur de la neige. Alors, David Le Breton, est-ce que ma petite introduction te permet de présenter ton excellent livre et de démarrer cette discussion que l'on va avoir et sur laquelle je pense que tu souhaites aussi que le public nombreux puisse intervenir. Donc, on est un échange à partir de son livre. Alors, si des personnes l'ont lu, c'est le moment de faire des précisions. Voilà.
Oui, bien. Je te remercie infiniment, Philippe. Je vous remercie aussi toutes et tous d'être venus aussi nombreux pour m'écouter. Et puis merci aussi à la librairie Mola de me faire la confiance de me faire venir de Strasbourg. Alors, tu m'as posé bon nombre de questions. Je vais reprendre l'une d'entre elles qui est sans doute la plus difficile. C'est la question du soi. Qu'est-ce que ça signifie être soi? Bon, dans la tradition sociologique américaine, qui sera en gros la mienne, le self, le soi, c'est la matrice de tous les possibles qui sont en nous et qui s'actualisent en quelque sorte dans le je. C'est-à-dire à chaque instant, je puise dans l'immense matrice de toutes les personnes que je pourrais être, je puise un certain nombre d'éléments qui font que je vous dis des choses précises, etc. Mais dans d'autres circonstances, j'aurais dit des choses un tout petit peu différentes, etc. Donc soi, c'est une sorte, être soi, c'est un continent d'une certaine manière. Mais dans la vie quotidienne, donc nous, le point de départ de mon livre, parce que là on est dans des questions peut-être un peu trop académiques, et je vais revenir davantage à mon livre, être soi donc est devenu aujourd'hui difficile du fait que nous sommes en permanence contraints de donner des significations et des valeurs à nos existences. On n'est plus porté comme autrefois par des valeurs communes, il n'y a plus de culture de classe, il n'y a plus non plus de culture, on ne peut pas dire par exemple qu'il existe une culture bordelaise, une culture strasbourgeoise ou autre. Je vois d'ailleurs la ville où je vis à proximité de Strasbourg qui s'est incroyablement transformée en l'espace d'une dizaine d'années. En d'autres termes, les identités s'éparpillent et nous avons en permanence chacun de nous donc à donner une signification précise à nos existences. Et donner une signification précise à son existence, c'est un effort permanent puisqu'on n'est plus porté par un collectif, on n'est plus porté par les autres. Donc nous vivons dans une société d'individus, donc dans une société du moi personnellement je, qui nous astreint donc en permanence à l'effort d'être soi, d'être évalué en permanence par le regard des autres, de devoir arracher à nous-mêmes dans l'univers professionnel, dans l'univers familial, dans l'univers social. Donc il faut en permanence être à la hauteur, il faut répondre à tous les défis qui nous sont posés, etc. Donc cette disparition de soi que j'analyse, c'est en quelque sorte le double, c'est l'ombre de l'individualisme triomphant de nos sociétés. On vit dans le monde du culte de la performance, de l'efficacité, de la vitesse, du rendement, il faut absolument mériter son poste, sinon on est éjecté, etc. Cette tentation de disparaître, c'est essayer d'échapper à toute cette violence en quelque sorte qui nous environne pour retrouver son souffle, retrouver un goût de vivre qui parfois donc tend à nous échapper. Le goût de la disparition de soi, c'est le choix de la pénurie dans un univers de profusion des objets. C'est le choix du dépouillement dans un monde où d'innombrables technologies nous accompagnent en permanence. C'est le choix de la vie simple, entre guillemets, ou de la discrétion dans une société obsédée par l'apparence, par le fait d'être de la reconnaissance, etc. C'est donc une manière de prendre une pause, de se mettre sur le bord de la rive et regarder un monde qui nous lasse, qui nous épuise, un monde dans lequel on a de plus en plus de mal à se reconnaître aussi. Et puis on veut donc être épargné en quelque sorte par toutes ces sollicitations dont on est l'objet. Donc dans la disparition de soi, il y a aussi la discrétion, hein, il y a ces manières aussi de s'enfermer chez soi et de sortir de moins en moins. Il y a ce choix d'une cabane dans une forêt ou la volonté de partir. La marche, évidemment, j'ai souvent évoqué la marche ces dernières années. J'ai écrit d'ailleurs aussi sur le sujet. La marche est une manière heureuse de disparaître. Je crois que si la marche connaît aujourd'hui un tel succès sociologique et dans l'ensemble du monde occidental, c'est parce que lorsqu'on marche, on devient absolument anonyme. Nul ne sait qui l'on est et on peut se reconstruire en quelque sorte sans avoir de compte à rendre et sans aussi que le portable sonne sans arrêt, puisque par chance encore, j'espère que ça durera éternellement, mais les portables ne réussissent pas vraiment à capter dans les forêts ou les sentiers ou autres. Donc c'est un univers où on est tranquille, on est un peu épargné, et pendant quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois selon la durée de la marche, on a mis entre parenthèses toutes les tensions qui nous accompagnent dans la vie courante, et on essaie de retrouver quelque chose de soi. Quelque chose donc d'un apaisement qui nous fait défaut. Une autre question de Philippe renvoyait au laisser tomber, entre guillemets. C'est très présent effectivement dans la clinique de l'adolescence, particulièrement à travers cette recherche du coma, par exemple, qui a envahi les jeunes générations à travers l'alcoolisation extrême. Ça fait partie de ces nouvelles conduites à risque, parce que on peut dire la recherche du coma était extrêmement peu fréquente en France avant les années 2000, si vous voulez. C'est vraiment un phénomène qui trouble de plus en plus, mais depuis 7, 8, 10 ans en gros, et qui touche aujourd'hui des jeunes qui peuvent avoir 10, 11, 12 ans, 13 ans, et qui ne boivent plus pour l'ivresse. Hein, l'ivresse, ça fait partie de la culture, on peut dire de la culture française, ça fait partie des rites de virilité, c'est-à-dire montrer qu'on tient l'alcool, qu'on est un homme, et puis rechercher l'euphorie, une certaine légèreté. Là, dans la recherche du coma, dans l'alcoolisation extrême, il s'agit de boire pour tomber, pour s'évanouir le plus vite possible. Donc on est confronté à un paradoxe assez saisissant quand même. On ne boit plus pour la fête, on boit pour disparaître. Et cette figure de la disparition, elle est aussi omniprésente dans toutes les autres conduites à risque de nos jeunes. Pour le dire très très vite, l'errance, bon, j'en avais beaucoup parlé dans mon premier livre sur le mal de vivre des ados, c'était conduite à risque, passion du risque, qu'Anne-Marie Métellier vient de republier en poche. Donc là, la question des jeunes en errance qu'on rencontre là sur toutes les places, dans toutes les gares, etc., ce sont des jeunes en effet qui disparaissent de leur état civil, de leur identité. Leurs parents ou leurs beaux-parents ne savent souvent plus du tout où ils sont. Ils se sont rebaptisés et ils vivent dans les interstices du lien social, c'est-à-dire là où personne ne vit. Ils s'arrêtent. Ils font leur demeure, en quelque sorte, de là où nous nous contentons de passer, c'est-à-dire les rues, les gares, etc. Eux, ils vivent là en permanence. Mais en même temps, ils sont invisibles. Ils sont évidemment infiniment visibles, mais en même temps totalement invisibles, parce que nul ne sait plus très bien qui ils sont. Et eux-mêmes, d'ailleurs, dans leur errance, absorbent d'innombrables produits chimiques et autres, et s'alcoolisent aussi énormément. Donc ils sont dans une forme de disparition de soi. Bon, pour ne pas parler trop longtemps, j'évoque très vite d'autres conduites à risque de nos jeunes qui relèvent de la disparition, mais en me dépêchant un peu plus, on retrouve ça, la disparition dans l'addiction à l'Internet, par exemple. ces jeunes qui passent leur temps, voire leur vie devant l'écran, qui ont une dizaine de pseudos, par exemple. Et à cet égard, je me souviens d'un jeune qui me disait qu'il était heureux de la dizaine de pseudonymes qu'il avait sur le net et qui lui permettait de se raconter des tas d'histoires et d'en raconter des tas aussi aux gens qui le croyaient. Et il me disait, la seule identité que je ne supporte pas, c'est celle avec un corps. Vous voyez cette manière de ne plus d'être là sans être là, qui est radicalisée aussi par la figure des irikokomi au Japon, là qui sont des jeunes qui ne sortent plus de leur chambre pendant un an, deux ans, trois ans, et que leurs parents nourrissent en déposant des plateaux repas au seuil de leur chambre. Alors ils sont en contact avec le monde entier via le net, mais par contre ils refusent absolument le face-à-face, le visage-à-visage, le corps-à-corps. Sont des espèces d'ermites de la technologie contemporaine. Voilà. Il y a d'autres formes de disparition de soi au moment, à l'adolescence. Alors, le djihadisme en est une, hein, entre parenthèses. Hein, tous ces ados qui adhèrent, dont j'en parle un tout petit peu dans mon livre, mais j'en suis resté à l'intégrisme, si vous voulez, parce que quand j'ai donné le texte à mon éditeur, on n'était pas encore dans cette espèce de fuite vertigineuse de milliers d'adolescents à travers l'Europe, et donc ce qui m'avait frappé c'était plutôt cette fuite dans l'intégrisme qui prolonge les sectes. Pendant longtemps le problème en France était les sectes des jeunes donc qui adhèrent à des sectes et qui se démettent complètement de leur personnalité au profit du gourou. Vous voyez, ils disparaissent dans la figure du gourou qui va leur dire « tu fais ci, tu fais ça », etc. L'intégrisme est une autre manière de disparaître, mais en Dieu, en quelque sorte. La conviction que Dieu est avec vous, que c'est Dieu qui parle par votre bouche, et puis que c'est Dieu qui égorge en même temps quand vous égorgez les otages, évidemment. Et donc, une forme qui a radicalisé l'intégrisme, c'est le djihadisme, puisqu'on a vu un certain nombre de jeunes français convertis, élevés parfois d'ailleurs dans des familles catholiques ou athées, et qui aujourd'hui donc égorgent triomphalement des otages, mais avec la conviction donc que Dieu est avec eux. Donc, ils se sont complètement défaits d'eux-mêmes, et tout ce qu'on peut lire d'ailleurs sur leur biographie l'atteste. Il y a eu des tas d'articles dans Le Monde, dans Libération notamment, qui nous montrent le parcours de même ce sinistre pauvre type de Koulibaly. On voit que ce sont des gens qui ont radicalement changé de personnalité à partir du moment où ils ont eu la conviction que Dieu était avec eux. Bon, il y a comme ça le jeu du foulard, par exemple, qui est aussi tellement d'actualité, qui n'est pas vraiment une conduite à risque dans le sens où les jeunes qui s'y adonnent ne sont pas forcément dans la souffrance. Par contre, ils mettent en danger leur vie, donc il y a un risque, mais on appelle conduite à risque quand même dans la clinique adolescente des comportements de détresse, de mal de vivre qui mettent en danger l'existence des jeunes. Là, dans le jeu du foulard, on est plutôt dans des conduites à risque par méconnaissance du danger, tout simplement. Donc les jeunes qui meurent ne cherchaient absolument pas à mourir. C'était souvent d'ailleurs des jeunes très bien dans leur vie, très bien dans leur peau, mais qui simplement n'ont pas du tout mesuré que, par exemple, quand ils sont tout seuls dans leur chambre pour se provoquer les sensations de vertige, de syncope, si personne ne vient les retirer leur tête du film, ils sont pendus et ils en meurent, évidemment. Donc. Mais ce qui est frappant aussi dans cette extension sociologique du jeu du foulard qu'on rencontre aujourd'hui dans le monde entier, c'est cette recherche de la syncope. Vous voyez, on est encore dans la disparition de soi. On veut disparaître. Même quelques secondes, on veut ne plus être là. Et puis, donc, au-delà de l'adolescence, il y a mille manières de disparaître dans la vie courante. Donc, que j'aborde dans le livre, on y reviendra peut-être, soit dans le débat que nous aurons tout à l'heure, soit dans l'échange avec Philippe, la dépression, le burn-out, l'addiction au sommeil, là j'en oublie sans doute, j'en oublie c'est sûr, et puis par rapport, j'ai aussi analysé comme une forme de disparition de soi, la maladie de Alzheimer, donc, ce qui me vaut un certain nombre de débats, d'échanges avec notamment des médecins, des psychiatres. Mais rassurez-vous, je ne suis pas un intégriste de la sociologie, donc je ne crois pas que toutes les formes d'Alzheimer relèvent d'un choix, entre guillemets. Mais je pense qu'un certain nombre d'entrées dans la maladie de Alzheimer viennent d'un sentiment d'épuisement du sens chez un certain nombre d'hommes ou de femmes, le sentiment d'avoir tout donné, d'avoir asséché absolument toutes leurs ressources, toutes leurs personnes, et d'être absolument au bout du rouleau. Alors, on ne choisit pas Alzheimer, mais on ne choisit pas non plus la dépression. Et pourtant, nul d'entre nous n'aurait l'idée de penser que la dépression est un phénomène biologique ou génétique. Il y a aussi des histoires de vie qui font qu'à un moment donné, on peut entrer en dépression, alors qu'en plus, rien dans nos vies, moi j'en ai fait un jour l'expérience, mais je pense que c'est une expérience très banale. Le grand écrivain William Styron en parle magnifiquement dans son livre « Face aux ténèbres ». Il y a des moments où il n'y a rien dans nos vies, et pourtant, rien dans nos vies de dramatique, et pourtant on plonge comme ça. Je pense que la maladie de Alzheimer relève un peu, dans beaucoup de cas, relève aussi de ces formes de disparition de soi, quand on n'en peut plus d'être soi-même, et qu'il y a une sorte d'implosion de soi, en quelque sorte, qui fait qu'on se met à l'abri, même en choisissant le pire, comme on peut choisir le burn-out ou la dépression, mais en même temps, c'est une manière de se préserver, peut-être. D'ailleurs, le psychanalyste Pierre Felida, tu t'en souviens, avait écrit un éloge de la dépression, un très beau livre par ailleurs, dur et beau, où il explique aussi que peut-être, entre autres, c'est un livre très subtil, mais où il explique entre autres que la dépression est aussi un signal d'alarme pour ne pas se perdre, ne pas se détruire. Et donc, je pense que certaines formes de la maladie de Alzheimer relève de ce cadre-là. D'autres sont purement génétiques. On atteste d'ailleurs le très beau film que j'ai vu récemment au Brésil, mais qui, je crois, vient d'arriver en France, qui s'appelle Alice pour toujours, un titre comme ça. Il me semble que j'ai lu un article dans Le Monde il y a quelques jours. Allez voir en tous les cas ce film qui est très très beau et qui marque l'entrée dans la maladie de Alzheimer d'une jeune femme. Elle a une cinquantaine d'années. Elle est professeure de linguistique à l'université de Columbia à New York. Mais là, par contre, les médecins identifient des souches génétiques qui font que peu à peu, elle perd complètement la mémoire et donc complètement son identité. Un film magnifiquement joué avec beaucoup de pudeur, de discrétion. Mais là, on est complètement dans le génétique, mais dans beaucoup d'autres cas, il faut plutôt analyser les histoires de vie et donc les singularités individuelles, plutôt que de dire c'est du biologique, etc. Avant la détérioration biologique, je pense donc qu'il y a une détérioration du sens, une détérioration de la signification de la vie.
Juste un petit exemple comme ça qui illustre bien par rapport. Parce que le propos de David, c'est un exemple par rapport à l'écrivain Robert Walser, qui était un personnage tout à fait particulier, que je vous recommande de lire. D'ailleurs, les livres de lui sont en vitrine en bas. C'est l'occasion de les acheter parce que c'est vraiment un auteur singulier. Alors, pour bien démontrer comment pour lui fonctionnait cette nécessité par moment de disparaître, un jour, comme il avait reçu un prix, on vient sonner à sa porte. Et Walser, c'était vraiment quelqu'un qui voulait être le plus insignifiant possible. Donc la personne sonne à sa porte, demande à rencontrer M. Robert Walser pour l'inviter à cette remise de prix. Et là, à ce moment, il se fait passer pour le valet. Le personnage du valet, c'est très important pour Robert Walser. En disant que M. Robert Walser n'est pas là et que donc de repasser plus tard. Et la personne, au bout d'un moment repartie, s'aperçoit effectivement de la supercherie et le comité qui devait décerner le prix décide de ne pas du tout accorder ce prix à ce personnage insupportable et en dessous de tout, quoi. Mais il démontre bien, par rapport à ce que tu disais, la difficulté pour certains sujets à se situer dans le lien social. Le lien social, ça veut dire qu'au fond, à partir du moment où vous vous présentez au monde comme écrivain et que vous êtes connu, vous pouvez accepter les conséquences que ça importe pour vous d'être écrivain et donc de répondre dans le social présent. Or, Robert Walser, lui, avait une particularité qu'on trouve aussi, tu le démontres très bien, vraiment, il faut le lire, c'est sur certains auteurs ou certains romans qui démontrent comment, pour certains personnages, c'est très difficile de se situer dans le lien social. Alors, le paradoxe, comme tu le démontres très bien à la fin de ton livre, c'est que le sentiment d'être soi, bien sûr que c'est une fiction. C'est une fiction nécessaire que tout être humain se construit pour se soutenir dans l'existence. Eh bien, il y a certains sujets pour qui, effectivement, c'est impossible de soutenir ça. Alors, le pas supplémentaire qu'introduit, vous l'avez sûrement entendu quand il parlait de David Le Breton, il en parle comme d'un choix. C'est pas un programme génétique ou quelque chose. C'est comme si certains sujets, et on pourrait même aller à parler de la dépression comme ça. C'est ce que faisait le docteur Lacan dans son petit entrevue à la télévision, où il faisait référence à Dante et Spinoza. Il allait très loin, il parlait de ça comme une lâcheté morale. Pour certains sujets, c'est qu'ils ne consentent pas à se retrouver dans l'éthique de bien dire. De bien dire au fond son être, c'est-à-dire de trouver les mots pour dire ce qu'on est. Un peu comme disait Godard, c'est pas une image juste, c'est juste une image. Alors il y a certains sujets pour qui c'est très difficile, je ne sais pas si tu serais d'accord, pour se situer dans le verbe. D'ailleurs, c'est très bien dit aussi dans l'exemple que tu donnes de Michel Léris. Qui est Michel Léris, qu'au fond, fait un, il faut bien Michel Léris, c'est un anthropologue remarquable, qui fait un texte à propos d'un torero, ou d'un toréador, je ne sais pas comment torero, on dit, torero, oui. Qui décide de ne plus torérer. Et là, Michel Léris, je trouve, il faut lire cette phrase, parce que je trouve que c'est remarquable, j'espère que je vais la retrouver. Voilà ce qu'il dit. Ne plus exister, ni par soi, ni par intermédiaire. Être en dehors du verbe être. Comme de la locution, en dehors et de tous les rouages du discours, discours aboli. Quand nulle part, il n'y aura quelqu'un pour exprimer quelque chose. Avoir atteint le point rebelle à toute toponymie, y compris cet essai de le décrire pour du moins exercer sur lui une maîtrise abstraite, point que seul désignerait, alors ça c'est remarquable, un zéro privé de ces deux syllabes, comme du cercle qui dessine son image. C'est vraiment l'effacement poussé à l'extrême. Et on retrouve le fameux zéro de Robert Walser. Mais là, au fond, il dit supprimer les deux syllabes et aussi le cercle, c'est-à-dire, au fond, l'effacement le plus total. En t'écoutant, ça me faisait penser, il se trouve, ça c'est la clinique, ton travail éclaire beaucoup la clinique, par exemple, même des filles brillantes reçues de façon très importante, la première fois au concours de l'internat de médecine, ne peuvent pas faire autrement que d'aller dans ces fameuses soirées, comment tu appelles ça,
binge drinking,
c'est-à-dire au fond, pour chercher le coma, et là au fond, elles appellent ça d'ailleurs, c'est aussi beaucoup de filles qui font ça, très souvent d'ailleurs, beaucoup de filles font ça devant l'entrée du collège, elles descendent des bouteilles de whisky. Et très souvent, elles arrivent. Quand j'avais travaillé en banlieue au collège Pierre Sémard à Bobigny, le principal était étonné de voir comment les filles rentraient pour avoir le coma in situ dans le collège. Alors, vous voyez, ça, bon. Et elle, cette jeune fille brillante, très jolie, elle tombe, hop, elle a toutes ses dents cassées. Vous comprenez ? Et ça, il n'y a aucune éthique de la conséquence. Quoi. On se met très mal, on se met minable.
On s'expose d'ailleurs.
On s'expose à ça.
Au viol.
Et ça, c'est quand même, c'est vrai, une particularité, tu as raison tout à fait de le dire, que l'on trouve de plus en plus à l'heure actuelle. Et ça échappe tout à, comme disait notre maire de Bordeaux, pas Juppé, mais Michel Montaigne, ça échappe à notre comprenoir. On n'y comprend rien, surtout les parents. Et ça, c'est une particularité qui est apparue à l'heure actuelle. C'est vrai que quand tu lisais aussi, quand j'ai lu ton livre, pardon, je ne sais plus si c'est moi ou toi qui lis le livre, pour montrer que des fois on est un dans le travail, je me disais, mais il va parler des djihadistes. Et effectivement, il n'en a pas parlé parce que tu l'as écrit justement avant que. Mais dans la revue Books, qui est sorti, il y a tout un travail sur le djihadisme qui est très très bien fait et il démontre très bien qu'il ne faut pas forcément s'omnibuler, comme tu disais, sur ça peut être une issue pour les jeunes de banlieue qui sont déjà enfin, un peu perdus et qui au fond vont récupérer quelque chose comme ça de leur soi peut-être un peu dans la figure du djihad. Mais il démontre très bien que ça peut aussi arriver à des jeunes de milieux très... on s'est vraiment occupé d'eux, Et là, c'est quand même un phénomène qui est tout à fait inquiétant. Un phénomène, et c'est pour ça que c'est très important de lire ton livre, de choses comme ça qui brutalement échappent, mais peuvent au fond, déterminer un choix de vie, parce que c'est quand même un choix.
Oui, oui.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu situais au niveau du choix. Un choix, comme on peut penser que Robert Walser, qui, par exemple pour les psychiatres, il aurait été diagnostiqué schizophrène, voire autiste. Et là, il démontre très bien comment pour lui, le choix est d'être insignifiant et de ne pas rentrer dans le lien social. Tu parles, je termine après, tu parles aussi au fond du sommeil. Il faut quand même croire en soi, c'est le cas de le dire, pour accepter de rentrer dans le trou noir de la nuit, sentir que même si on disparaît un temps, on verra apparaître le lendemain. Mmh. Il y a des sujets, c'est souvent des insomniaques d'ailleurs, et souvent des sujets, entre guillemets, que nous on appelle, en jargon psychiatrique, psychotique, qui ne dorment pas parce qu'ils ont, pour eux, c'est la trouille de disparaître dans la nuit. Nous, comme on a une image et que tous les matins, pour se rassurer, on va devant le miroir pour nous présenter à nous-mêmes et repartir dans la journée, mais il y a des sujets qui ne consentent pas du tout à ça. Alors, moi, je trouve que ton livre éclaire, avec ton approche anthropologue et sociologique, éclaire quand même aussi beaucoup, par exemple tout ce que tu dis sur l'errance et le vagabondage, éclaire beaucoup, toujours avec aussi des petites références à la fois de jeunes ou de personnes qui parlent, et d'extraits de littérature, ça éclaire beaucoup le travail de gens qui soient, je ne sais pas si s'il y a des étudiants en psychologie ou tout ça, je crois que les livres de David Le Breton permettent comme ça, dans ce mélange de la littérature et d'une certaine clinique au fond, même si tu ne fais pas de la clinique, mais les exemples, d'ailleurs je te demande comment tu fais pour avoir le temps pour lire tout ça et trouver ces trucs, comment tu fais? Tu passes ton temps à faire ça, c'est quoi?
Moi, je disparais dans l'écriture et dans les lectures.
Hein, Michel Léris, il fallait trouver ça.
Oui, voilà, je resitue Michel Léris. Le propos qu'a cité Philippe, c'est lorsqu'un, c'est dans les années 50, un très grand torero madrilène prend sa retraite. Et la presse espagnole est bouleversée parce que c'est un personnage absolument grandiose. Et donc, on demande à cet homme, mais qu'allez-vous faire? Et il répond de façon magnifique, je vais apprendre à n'être rien. Et Michel Léris tombe sur cette phrase qui l'éblouit lui aussi complètement. Et donc Léris commente longuement. Voilà. Alors l'un des points sur lequel Philippe a insisté, c'est en effet cette difficulté d'être à l'intérieur du lien social. C'était sans doute mon point de départ. Bon, je ne vais pas vous parler de moi, mais en tous les cas, me suis toujours senti un peu aussi en porte-à-faux avec le lien social. Donc, moi, j'aime bien disparaître de multiples manières, mais de façon plus...
Comment tu fais, alors ?
Plus incisive. Je te dis, l'écriture, les lectures, le voyage...
C'est des disparitions. Etc.
Ah, pour moi, oui. Mais Nicolas Bouvier, d'ailleurs, disait que l'écriture était un exercice de disparition. C'est vrai que c'est une sorte de transe, une sorte d'effacement. On est dans un autre monde. D'ailleurs, quand je vais à Paris ou ailleurs en train, généralement, je ne vois jamais le temps passer parce que je passe mon temps à lire ou à écrire. Et quand le train arrive, des fois, je suis même presque déçu.
Tu ne passes pas ton temps, comme tu le dis dans ton livre, à faire comme les autres qui sont sans arrêt avec leur portable, à faire des jeux. D'ailleurs, tu en parles, comment ça s'appelle ces jeux-là?
Je ne sais pas, mais je m'en fous, je veux pas.
Non, mais tu en parles, c'est énorme au Japon.
Le pachinko. Voilà. Ah, ça, c'est autre chose. Oui, d'accord. C'est très troublant et très beau, d'ailleurs, de voir ces dizaines de Japonais en train de regarder les boules qui tombent. Et vous avez des gens de tous les âges. Des ados et des personnes très très âgées. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Mais on comprend effectivement qu'on puisse se fasciner pour le vide d'une certaine manière. Et ça permet à beaucoup de Japonais de tenir le coup finalement et de compenser un certain nombre de difficultés qu'ils ont à vivre. Alors je reviens à mon propos sur la difficulté du lien social parce que je crois que chacun d'entre vous connaissez, vous avez entendu parler d'hommes ou de femmes, d'adolescents parfois qui ne veulent plus sortir de leur chambre, qui sont effrayés de vivre dehors et qui font le choix finalement donc de vivre à l'écart. Sont des espèces d'ermites de la ville. Ils sont protégés par leur famille ou ils sont protégés parfois par les institutions, par la psychiatrie. Bon, moi j'en connais un certain nombre qui ne veulent plus vivre dehors, qui ne veulent pas vivre dehors parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de violence, trop d'agressivité. Donc ils font le choix, entre guillemets, Je reviendrai tout à l'heure sur cette notion de choix. Ils font le choix de ne plus pratiquement sortir de leur maison ou de leur institution, de leur CAT et autres. Un peu à l'image d'ailleurs de Robert Walser. Ouais. C'est pour ça que le personnage m'a toujours aussi profondément touché. Je me suis senti même relativement fraternel, même si je ne dirais jamais ce qu'il
a écrit. Au bout d'un moment, on se prend pour lui, hein.
Jusqu'à un certain point, parce que Robert Walser est donc l'un des très grands écrivains suisses. Il faut rappeler qu'il était admiré par Franz Kafka, par exemple, par Walter Benjamin, qui ont admiré ses premiers livres. Et pourtant, jamais Robert Walser n'a cru à son personnage d'auteur, d'écrivain, d'une certaine manière. Il a fait l'école pour devenir domestique. C'est ça qui a donné ce livre, l'Institut Benjaminta. Il a une écriture à la fois infantile et incroyable. Je crois que c'est jamais je n'ai lu un auteur aussi insaisissable. Son beau livre sur la promenade, par exemple, que j'ai cité aussi dans mon livre sur la marche, et un livre que vous le relisez plusieurs fois pour vous demander si c'est possible qu'on écrive comme ça. Et c'est absolument magnifique, mais complètement incongru et enfantin. On se demande si on lit le texte d'un génie ou d'un gamin de 10 ans qui vous dit tout ce qui lui passe par la tête. Et donc Robert Walser a choisi pour moi, parce que je pense qu'il n'était absolument pas psychotique ou qu'il ne relevait absolument pas de la psychiatrie, il a choisi la psychiatrie, s'est fait interner relativement jeune, et puis il n'en est plus jamais sorti. Et dans les années, fin des années 50, un autre écrivain suisse qui s'appelle Karl Seelig est venu le chercher dans son établissement et a marché avec lui. Et il y a des textes, Karl Seelig parle merveilleusement d'ailleurs de la marche dans les Alpes suisses, et puis donc explique qu'est-ce qu'il dit avec Robert Walser, etc. J'avais beaucoup cité ce livre aussi dans mon dernier livre sur la marche. Bon. Et la préoccupation de Walser, il rappelle en permanence à Karl Seelig, surtout ne me faites pas arriver en retard, je ne veux pas me faire remarquer. Il a 70 ans, il a 80 ans, il est encore dans cette hantise d'être identifié à un personnage, voilà. De porter le poids de son identité. Il a passé sa vie à trier des haricots et des petits pois et à faire des sacs en papier dans son hôpital psychiatrique parce qu'il fuyait le monde, mais il était parfaitement... Il était comme nous, je veux dire, comme chacun de nous. Karl Seelig raconte des conversations absolument prodigieuses qu'il a avec lui, et il connaissait absolument tous les écrivains de son époque. Il a choisi le rien, il a choisi la discrétion, il a choisi l'insignifiance. Voilà, mais je pense que beaucoup de nos contemporains sont dans ce choix. Donc, je vous l'ai dit, j'en ai connu un certain nombre, je suis sûr que vous en connaissez vous-même. Dans les faits divers, malheureusement, qu'on lit souvent dans les journaux, on découvre parfois le cadavre d'un homme ou d'une femme que, après 2 ou 3 mois de sa disparition, mais c'était déjà des hommes ou des femmes qui devenaient complètement invisibles aux yeux des gens qui vivent dans le même immeuble qu'eux ou dans le même village qu'eux. Donc on les voyait si peu souvent auparavant que lorsqu'ils sont morts, personne ne s'aperçoit vraiment qu'ils sont morts. Là, on est dans des figures un peu extrêmes, mais pour moi, cette question de la disparition de soi a à voir avec la difficulté qu'on a parfois à assumer le lien social, à devoir toujours répondre de soi, de ses responsabilités. Disparaître, c'est d'abord effacer les contraintes de l'identité, c'est-à-dire être le fils ou la fille, le père ou la mère, ou le prof ou le médecin ou l'ouvrier ou n'importe quoi. On en a marre de porter cette espèce de fardeau à certains moments que devient notre existence. Alors, on n'est pas dans la folie, on n'est pas forcément dans la dépression, on peut l'être, on a envie simplement de paix, on a envie de ne plus, comme disait merveilleusement Montaigne d'ailleurs, il faut se prêter aux autres et ne se donner qu'à soi-même. Et on est dans une société. Et donc préserver une arrière-boutique, là, j'ai plus en tête l'exactitude de la phrase magnifique.
Je vais la citer. C'est notre maire de Bordeaux. Il faut se réserver une arrière-boutique toute nôtre, toute franche, en laquelle nous établissons notre vraie liberté et principale retraite et solitude.
Voilà, donc construire à l'intérieur de soi, déjà, cette manière d'être à la fois dedans et dehors. Et je trouve que cette autre phrase de Montaigne, ne se prêter aux autres et ne se donner qu'à soi-même, traduit merveilleusement cette idée de la disparition de soi. Il faut avoir ces arrière-boutiques ou ces jardins secrets, en quelque sorte. D'ailleurs, ça peut être aussi le jardinage. Il y a mille manières comme ça de disparaître dans des activités où on est dans une sorte de transe. On ne voit plus le temps qui passe. Moi-même, je me surprends des fois à désherber pendant des heures ou des trucs. Et je me dis, mais bon sang, qu'est-ce que je fous là avec tout le boulot que j'ai à faire? Mais ça fait partie du... Alors que quand on marche, par contre, on a l'impression d'être dans une sorte de plénitude. C'est un peu moins le cas quand on désherbe, quand on coupe des branches ou des choses comme ça. Mais c'est un peu les mêmes manières de se ménager des espaces. C'est un peu la chambre à soi de Virginia Woolf, mais qui prendrait plein de formes différentes pour ne plus être vidé complètement, comme dans certains films de science-fiction, être complètement bouffé par, pas par les aliens, là, mais c'est quasiment par un lien social qui devient parfois incroyablement virulent. Et qui aboutit d'ailleurs dans les formes les plus douloureuses au burn-out, à la dépression, quand des gens sont harcelés au travail ou qu'on leur demande toujours plus, je cite cette maladie, cette forme de mort qui est courante au Japon, Aroki, je crois, c'est l'arrêt du cœur. Et donc des hommes de 30 ans qui ont un arrêt brutal du cœur, ils bossent 20 heures par jour dans leur entreprise. Ils vont même plus voir leur famille. Ils sont complètement bouffés par leur boulot jusqu'au moment où ils en meurent. Voilà, là, la disparition de soi, là, est absolument radicale. Et donc, heureusement, il y a des formes heureuses de disparaître de soi, comme par exemple la marche, ou l'écriture, ou la lecture, ou même le sommeil, ou autre.
On va être obligé d'arrêter. On remercie beaucoup David de votre temps.